Chers frères et sœurs, chers amis à l'écoute, nous arrivons aujourd'hui à l'étude numéro 30 et les deux thèmes seront, premièrement, les fentes du rocher et la vallée d'angoisse. La deuxième partie, la puissance de la résurrection. Il est dit dans Romains au chapitre 6, verset 3, « Nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, nous avons été baptisés en sa mort. » Romains 6, verset 3. Et dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 14, il est dit « Ô ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, laisse-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. » La croix est annoncée dans toutes les Écritures saintes sous des figures et des types divers. Ainsi, le rocher frappé par Moïse au désert est une figure du Seigneur Jésus-Christ qui a été frappé à notre place. Exode, chapitre 17, verset 6. Il y a aussi une allusion au Seigneur crucifié dans les paroles de Yahvé l'Éternel à Moïse. « Je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. » Exode, verset 33, verset, chapitre 33, verset 22. Je répète Exode, chapitre 33, verset 22. Et voici une nouvelle alliance, ou plutôt allusion, à la croix. Cette allusion à la croix, également à ce rocher, nous l'avons compris, le rocher des siècles qui a été frappé, comme nous venons de le dire, à notre place, dans l'appel du bien-aimé, qui essaye d'attirer au calvaire l'attention de l'âme qui a été rachetée. Il veut lui faire comprendre qu'étant une même plante avec lui en sa mort, l'unique retraite, donc l'unique refuge, c'est son côté percé. Romains, chapitre 6, verset 4. Jusque-là, elle a surtout vu en son Seigneur le roi, oui, le roi qui a fait sa demeure en elle. Sa pensée ne s'est point arrêtée sur le crucifié, bien qu'elle ait déjà, elle a déjà eu quelques aperçus du calvaire et qu'elle ait accepté de suivre le chemin de la croix. Or désormais, elle doit apprendre que la croix de Christ se dresse entre elle et le monde, et que pour participer à la vie de résurrection, à l'ascension, et demeurer en lui à l'intérieur du voile, et ça veut dire beaucoup de choses, elle doit d'abord mourir avec lui, et là seulement, dans la fente du rocher, il peut la reconnaître comme étant sa fiancée. Et ça mérite quelques explications supplémentaires. C'est parce que les enfants de Dieu ne discernent pas les deux aspects de la croix de Christ qu'ils ne font pas dans leur vie l'expérience de la vie abondante. Le côté objectif de la croix, c'est l'œuvre qui a été accomplie par le Seigneur, par sa mort et par sa résurrection. Et à la base, tout cela est à la base de l'œuvre qu'accomplit le Saint-Esprit en nous. Donc, objectivement, la mort du Christ n'est pas seulement la propitiation pour le péché, mais dans les desseins divins, c'est aussi la mort de tous ceux pour qui le Sauveur a été crucifié. Devant Dieu, nous croyons, nous qui sommes des croyants, nous sommes, on l'a bien compris, en Christ. Nous sommes dans l'anfractuosité du rocher, nous sommes plantés en sa mort. Le saint et le juste a été fait malédiction pour les maudits, afin que soit cloué au bois, avec le substitut, avec l'agneau de Dieu, la vie maudite que nous avons héritée du premier Adam. Et subjectivement, c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique la puissance de la mort du Seigneur et de sa résurrection pour nous conduire à cette position en Christ, où nous sommes crucifiés, ensevelis, où nous ressuscitons et sommes élevés dans les lieux célestes avec notre Rédempteur. Oui, c'est les deux aspects de la croix. L'objectif et le subjectif doivent donc être compris, doivent être vécus pour que, pratiquement, expérimentalement, la vie jaillisse de la mort dans nos vies. Si par la miséricorde de Dieu, nous arrivons à vraiment haïr notre vie propre, selon Saint Luc chapitre 14, verset 26, aussi bien que nos péchés, si nous reconnaissons que tout est sous le coup de la malédiction et que nous soyons prêts à renoncer à tout ce que nous sommes en nous-mêmes, alors là, allons au calvaire. Et là, nous constaterons que nous sommes délivrés, étant morts à ce qui nous retenait captifs. Romains chapitre 6. Comptant sur l'Esprit divin, nous faisons nôtre la mort de Christ dans l'assurance de recevoir aussitôt de la vie du ressuscité pour que soit rempli le vase de terre. Dès lors, et par la foi, nous pouvons compter que le Saint-Esprit appliquera dans l'expérience notre décision de mourir avec Christ et qu'il fera mourir toujours plus profondément les œuvres du corps. Nous amenons ainsi à nous glorifier de la croix du Seigneur Jésus, par laquelle le monde est crucifié pour nous et nous au monde. Par le Saint-Esprit, nous sommes amenés à toujours porter en notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos corps mortels. Et c'est cette vie, c'est-à-dire sa vie, qui agit en nous maintenant puissamment. Alléluia. L'aide qui a été formée pour le premier Adam, cette aide fut prise de son côté pendant son sommeil. Puis le Créateur la lui présenta. Admirable figure du mystère de Christ et de l'Église. Descendant du premier Adam et de ce chef sous la malédiction, tous les rachetés sont unis au dernier Adam planté en sa mort. Et c'est là que Dieu les voit de toute éternité. Pour eux, Christ a été fait malédiction. Si un est mort pour tous, tous sont donc morts. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Plantés en lui, baptisés en sa mort, formés de nombreux membres, l'épouse, elle est prise du côté percé du Seigneur et elle est rendue participante de sa nature divine pour lui être présentée le moment venu et de ainsi partager avec lui le trône. Le bien-aimé s'efforce de détourner vers lui le regard de l'âme. Je répète, le bien-aimé s'efforce de détourner vers lui le regard de l'âme qu'il voit occupé dans une direction opposée. Il l'avait détaché des choses extérieures par la manifestation de sa présence en elle, mais maintenant il désire qu'elle le contemple extérieurement et dans le sein du Père, bien qu'il demeure toujours en son cœur. Pour le bien-aimé, la voix de l'âme rachetée est douce, et il est heureux de voir son regard se tourner vers lui, comme la fleur qui se tourne vers le soleil, comme l'astre des nuits, qui est fidèle, un fidèle témoin du soleil disparu. Il est donc heureux de voir ses traits réfléchir la lumière de celui qu'elle aime. L'âme est préoccupée et voici sa réponse. Prenez-nous les renards, les petits renards, qui gâte les vignes. Prenez-nous, mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître parmi les lys. Donc, elle a bien entendu la voix du bien-aimé, elle a vu qu'il se tenait debout, et elle a entendu son invitation à oublier les choses anciennes. Elle a écouté son message concernant la croix. Elle a écouté son appel à regarder vers lui. Mais elle n'a pas compris. Ses yeux sont sur la vigne. Les promesses de récolte l'absorbent. Combien facilement le regard se détourne de la personne du Seigneur. Dans les appartements du roi, l'âme avait compris qu'elle s'était trop occupée de servir et pas assez de sa propre vigne. Mais maintenant, elle tombe dans l'extrême opposé et elle est si préoccupée de sa vigne qu'elle ne comprend pas l'appel du bien-aimé. Elle craint de perdre l'expérience bénie de sa présence et s'inquiète de l'état des vignes. Elle est effrayée par les incursions des petits renards. Petit retour à l'ancienne vie qu'elle croyait pourtant abolie. Ah, plutôt que de céder à l'inquiétude, que n'est-elle restée attentive pour entendre la voix du bien-aimé et pour y répondre en se levant aussitôt. Lui se serait occupé des promesses de fruits et des petits renards, car il ne peut manifester sa puissance pour délivrer et pour garder que lorsque nous marchons selon sa volonté, voyez-vous, les petits renards, il faut bien le dire, les petits renards sont quand même quelque chose que nous devons absolument éviter. Et cela est important. Ô mon âme, attends-toi sans retard à l'Éternel et réfugie-toi dans la fente du rocher et cache-toi en lui. Tu n'as pas compris le message du bien-aimé. Tu es en lui sur la croix. Nous sommes en lui sur et par la croix. Réfugie-toi au calvaire. C'est ce que nous devons faire. Là, il pourra s'occuper des petits renards et des promesses de fruits de la vigne. Il n'est donc point suffisant de te reposer sur les expériences passées. Les expériences passées sont une chose, mais nous devons regarder en avant et de te réjouir parce que ton bien-aimé est à toi maintenant, ou parce qu'il fait paître parmi les lys qu'il a plantés en toi. Donc il faut aller de l'avant, il faut courir vers le but, il faut tourner le dos au passé, il faut comprendre rapidement sa volonté et obéir aussitôt si tu veux vraiment connaître Dieu et de lui plaire, de lui obéir. La Bible dit dans Osée, au chapitre 5, verset 15, « Je m'en irai, je m'en retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'il se reconnaisse coupable, qu'il cherche ma face. Dans leur angoisse, ils me chercheront avec empressement. » Et dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 17, il est dit « Avant que le jour se lève et que les ombres fuient, reviens, mon bien-aimé, sois comme la gazelle sur les montagnes qui nous séparent, ou les montagnes de séparation. » Chers amis, l'âme éperdue ne comprend plus. Le bien-aimé a maintenant caché sa face. Effectivement, il l'a inutilement convié à regarder vers lui. Or, elle a répondu en parlant de la vigne et des renards. Il lui a montré sa place de refuge dans la fente du rocher. Et elle s'est reposée dans les expériences du passé. Mon bien-aimé est à moi. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. Oui, mon bien-aimé est maintenant à moi. Qu'il voit les fruits du travail de son âme et soit satisfait, cela n'est pas encore le désir suprême de son cœur. Elle n'est pas encore prête pour le communiquer ou pour la communion qu'il désire vraiment. Ce qu'il est pour elle est toujours, toujours la pensée dominante en son cœur. Et maintenant, le Seigneur a caché sa face. Ceci n'aurait pas eu lieu si, laissant à ses soins la vigne et les renards, elle avait obéi promptement à son appel. Ça nous donne à réfléchir. Si après nous être complètement remis à lui, à notre Sauveur et Seigneur, nous obéissons sans hésiter et surtout sans trop raisonner, sans penser à nous et à nos expériences du passé, il pourrait nous conduire rapidement jusqu'en la retraite secrète du Très-Haut. Et son silence, son absence, réveille enfin l'âme toute absorbée en elle-même, et elle a le sentiment maintenant de quelque chose, d'un nuage entre son bien-aimé et elle. Elle a comme l'intuition que son union avec lui n'est pas aussi parfaite qu'elle pensait. Certes, ce n'est que le début de sa vie spirituelle. Cependant, l'étoile brillante du matin a illuminé son cœur, annonçant la venue du jour, un jour qui sera comme la lumière, surtout quand le soleil se lève en un matin sans nuages. 2 Samuel, chapitre 23, verset 4, est qui verra réaliser son union parfaite avec le bien-aimé. Or maintenant, c'est l'ombre qui s'étend sur elle, car il n'est plus là. Elle le prie de revenir avec la rapidité de la gazelle sur les montagnes de la séparation. La vie du sommet semble si loin d'elle maintenant. Dans son état de profonde humiliation, il lui semble qu'il est seul sur la montagne, alors qu'elle est restée dans les ténèbres de la vallée. Il lui suffira, dit-elle, qu'il daigne abaisser son regard vers elle, de l'abaisser vers elle avant que le jour paraisse et que l'ombre s'efface. Le Seigneur répond-il à sa requête ? Non, non, non. L'Éternel se taira dans son amour, Sophonie, chapitre 3, verset 17. Il est dit dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 3, verset 1 et 2, « De nuit, je l'ai recherché sur ma couche, mais je ne l'ai point trouvé. J'ai dit, je me lèverai maintenant et je le chercherai. » Cantique des Cantiques 3, verset 1 et 2. Un ancien auteur a nommé de façon suggestive cette nuit-là, celle de la foi et de la couche, c'est-à-dire le sanctuaire du cœur où le Seigneur aimait à se reposer. Ceci est spirituellement vrai, car l'âme est maintenant dans les ténèbres de la nuit. Les ombres s'étendent au lieu de s'enfuir. Donc, elle a cherché le Seigneur dans la retraite secrète de son cœur, mais elle ne semble pas l'avoir trouvé. L'épreuve la ramène à l'action et à une ardente recherche. Elle va de ci, de là, espérant le trouver. Et elle dit avec Job, voici, si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je viens à l'Occident, je ne le trouve pas. Si je vais au Nord, je ne puis le voir. Si je vais au Midi, je ne puis le découvrir. Dieu a brisé mon courage, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'absurdité dont je suis couvert. Job, chapitre 23, verset 8, 9, verset 16 et le verset 17. Donc, les ténèbres ne l'effraient pas. Elle cherche malgré tout son bien-aimé. Et à ce point qu'elle brise même la réserve où elle s'enfermait. Le mur qui la séparait des autres tombes. Qu'importe ce qu'on pensera ou ce qu'on dira dans la cité, pourvu qu'elle trouve celui que son cœur aime. Elle ne craint pas de laisser savoir qu'il s'est retiré d'elle. Elle en parle même aux gardes et leur demande de l'aider dans sa recherche. Sa souffrance est trop grande pour qu'elle essaye de sauver les apparences ou de s'attacher aux expériences d'autrefois lorsque elle a l'occasion de vraiment rendre témoignage. Elle veut être honnête. Qu'importe ce que les autres pensent ou penseront, elle ne peut se passer de lui. Elle veut le trouver. Or, le bien-aimé a maintenant atteint son but. Oui, il l'avait inutilement appelée sans qu'elle se rendît à son appel. Mais son silence l'a tirée de l'inaction et l'a ainsi amenée à le rechercher diligemment. En prolongeant cette apparence d'absence, il a démoli le mur de séparation et il l'a attiré vers lui. Il était là lorsque elle le cherchait dans la retraite de son cœur et il a vu son angoisse. Il l'a vu allant de ci, de là, en quête de quelques bénédictions auprès des instruments dont il s'était servi autrefois, même auprès du veilleur. Il est resté silencieux dans son amour, car il veut la conduire à une parfaite connaissance. Et ce n'est pas volontiers qu'il afflige les enfants des hommes, selon Lamentations, chapitre 3, verset 33. Avec joie, il a vu enfin se lever pour chercher celui qu'aime son âme. Avec joie, il a vu l'intensité de sa recherche et il a constaté son indifférence pour les commentaires du monde religieux et pour sa propre réputation. Il agit présentement avec elle, comme avec les disciples sur le lac, lorsqu'il se prépare à les dépasser pour les amener à crier à l'aide. Saint Marc, chapitre 6, verset 48. Ou bien encore, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs, lorsqu'il poursuit sa route le soir venu, afin de les amener à la prière et de rester. Saint-Luc, chapitre 24, verset 28. La récompense arrive. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4. Car à peine les avais-je dépassés, que je trouvais celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi sans vouloir le laisser aller. Il n'y a souvent qu'un pas à franchir entre l'âme en détresse et la délivrance. Lorsque toute chose autour d'elle semble lui manquer, elle se jette sur Dieu dans son immense faiblesse. Une soif spirituelle intense, une grande détresse suffisent pour affranchir l'âme, pour renverser les barrières et lui faire trouver la liberté. Car aussi longtemps que nous conservons la muraille, que nous couvrons nos échecs, que nous cachons nos sentiments les plus intimes et vivons en secret, malgré ce que Dieu démolit, nous pouvons rester dans les limites rigides de notre étroitesse propre. Dans le cantique, c'est l'ardent désir de revoir le bien-aimé qui attire l'âme hors d'elle-même, qui l'enlève à ses expériences passées et à tous les moyens terrestres de bénédiction. Avoir dépassé tout cela, c'est se débarrasser de toute idée préconçue sur le mode d'action divine, c'est se dégager de tous les plans, tous les programmes, c'est abandonner toute idée personnelle concernant le temps, concernant l'endroit, l'instrument, et c'est demeurer en repos et laisser au Seigneur, tout le soin de frayer le chemin de la bénédiction. Sortir de soi-même, c'est être à ce point brisé qu'on s'oublie totalement, soit avec intérêt et sa réputation. Se lever et le chercher, c'est répandre son cœur aux pieds du bien-aimé. Cette fournaise d'ardent désir qu'a allumé le Saint-Esprit, c'est être vide de soi pour que Dieu puisse se communiquer. Enfin, l'avoir trouvé implique que notre ardente recherche a donné place à un paisible repos. Et l'âme se repose sur la parole du Seigneur. Tu es dans les fentes du rocher maintenant. Elle ne regarde plus aux expériences anciennes. Elle ne regarde plus en arrière. Elle regarde en avant vers la vérité et vers le vivant. Dans un transport d'allégresse, l'âme déclare qu'elle l'a enfin trouvé. Et elle ajoute, je l'ai saisi et je ne veux plus jamais le laisser aller. Sa présence manifestée lui est maintenant si précieuse qu'elle veut s'attacher à lui. Elle est maintenant disposée à veiller dans la crainte qu'elle a de le perdre de nouveau. Ô âme, ce n'est pas à toi de le retenir. Dans le domaine des choses divines, vouloir garder, c'est perdre. Il demeurera, si tu veux, te confier en lui et apprendre à le laisser aller selon qu'il voudra. Tu n'as pas à veiller ni à te reposer dans ce qu'il t'accorde de sa présence, mais à te confier en lui et à te reposer sur sa sainte parole seule. Bien plus, il ne voilera plus sa présence quand tu t'oublieras complètement toi-même et quand tu abandonneras tout à fait ta vie pour ne plus vivre que de la sienne, comme lui-même le fait pour vivre de la vie de son Père. Nous arrivons à la deuxième partie, et là nous avons la puissance de sa résurrection. La Bible dit, ayant été enseveli avec lui, vous êtes aussi ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Colossiens, chapitre 2, verset 12. Et au Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5, il est dit, « Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Le Seigneur défend de nouveau aux filles de Jérusalem de troubler d'aucune manière, de ne pas troubler l'âme qui s'est donnée et qui s'est donnée si complètement à lui. Aussi, il sait la grande détresse où l'a jeté son éloignement apparent, les amers reproches, car il y avait des amers reproches qu'elle s'est fait au sujet de ses moindres infidélités et de sa préoccupation d'elle-même. On l'a dit avec raison, les péchés sont quelque chose de relatif. Plus l'âme a été favorisée, plus grands sont les dons qu'elle a reçus, plus étroite son union avec le Seigneur, plus grande aussi lui semble sa culpabilité pour la moindre indélicatesse, infidélité, même pour des choses que à d'autres semble insignifiant ou même indifférente. Voyez-vous, l'acte qui chez l'indifférent semble insignifiant paraît maintenant un crime pour le serviteur qui est fidèle. D'autres peuvent se contenter. Ils peuvent se contenter d'être gardés de tout péché visible, grossier, mais l'âme qui recherche vraiment une communion ininterrompue avec Dieu ne peut excuser la moindre désobéissance ou la moindre ignorance de ce qu'il veut. Oui ? C'est donc important. Le Seigneur est miséricordieux et il sait tout cela. Aussi, il lui accorde un temps de repos, car, dit-il, l'esprit tomberait en défaillance devant ma face. Ésaïe 57, verset 16. Il sait aussi que l'âme a besoin d'être puissamment fortifié par l'Esprit Saint avant de pouvoir aller au-delà. Que personne ne trouble son repos, car il va la mener au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Par la vallée de l'affliction, elle est entrée dans une union beaucoup plus étroite avec le bien-aimé. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras que je suis ton Seigneur. Oh, que les enfants de Dieu permettent au Seigneur de prendre soin lui-même des siens. Oui, lui qui les a rachetés à un si grand prix, il s'occupe de chacun avec amour, le guidant en tenant compte de son caractère particulier. Ils sont en sûreté entre les mains percées. Lui ne saurait se tromper ni se décourager. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas le lumignon qui brûle encore. Ésaïe 42, verset 3. Jusqu'à ce qu'il ait changé le jugement en victoire. Alléluia. Il y a la transfiguration de l'âme qui a été rachetée. Cantique des Cantiques 3, verset 6. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, parfumées de myrrhe et d'encens? À l'issue de la période de repos commandée par le bien-aimé, les filles de Jérusalem voient la fiancée remonter du désert et elles glorifient Dieu à son sujet. Elles l'avaient vu désespéré, errant dans la nuit, brisé de douleur. Aussi, quand elles l'aperçoivent à nouveau, leur premier mouvement est celui de l'étonnement. Qui est-ce? Mais c'est elle! Elle est transfigurée et les jours de son deuil ont pris fin. La bien-aimée vient de traverser moralement un désert et ce passage semble s'appliquer à elle. En tout cas, elle est unie au Seigneur et ils sont maintenant un. Elle est comme enveloppée de la gloire du Seigneur par des colonnes de fumée. Expression employée par Joël lorsqu'il annonce que Dieu enverra son Esprit Saint avec puissance sur ses serviteurs et sur ses servantes au jour de la Pentecôte. Joël chapitre 2, verset 28, verset 29 et 30. Devant Israël, Dieu manifeste sa présence dans la colonne de nuée. Exode chapitre 13, verset 22. Sous l'image employée, nous voyons que la bien-aimée remonte du désert dans la puissance du Saint-Esprit et le mur qui empêchait que les autres pouvaient voir le Seigneur demeurait en elle, qu'il demeurait en elle, eh bien, a été maintenant manifestement détruit. Il vaut donc la peine d'aller au désert pour de tels résultats. Il vaut la peine de souffrir de l'abandon, on peut dire un abandon apparent du bien-aimé, pour revenir ensuite parfumé de myrrhe, parfumé de parfums de ceux qui vivent. Tous ceux qui vivent avec le Seigneur, duquel il est écrit il a plu à l'Éternel de le frapper. Et il a mis dans la souffrance, Ésaïe chapitre 53, verset 10. L'âme a été fondée au creuset de l'affliction et elle n'est plus inflexible, elle n'est plus incapable de se plier, mais compréhensive maintenant, et elle est brisée par son amour, et elle sait se plier et céder surtout à la volonté du bien-aimé, et à ce point qu'elle est aussi parfumée d'encens, une résine liquide qui est distillée. Et maintenant, la puissance de l'amour de Dieu peut enfin se manifester par elle et d'autres seront amenés et seront brisés au pied du Seigneur par son moyen. L'âme est maintenant victorieuse. Gloire à Dieu. Il est dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 7 et 8, « Voici la litière de Salomon entourée de 60 vaillants hommes. Tous sont armés de l'épée et sont exercés au combat. Chacun porte l'épée en vue des alarmes nocturnes. Qui est-ce ? Disent les filles de Jérusalem en regardant vers le désert. Qui est-ce ? Maintenant, elles ajoutent, voici la litière de Salomon. C'est une procession triomphale qui monte du désert. Des hommes de guerre entourent carrément la litière du roi. Historiquement, on voit ici, en quelque sorte, une allusion au Seigneur Jésus, revenant de sa victoire sur Satan, et cela après la tentation du désert. Et l'âme, qui est unie au vainqueur du calvaire, partage maintenant son triomphe sur les principautés et les puissances, car il les a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Demeurant en Christ, elle sera portée en toute sécurité au-dessus de tous les précipices, et cela au travers de tous les pièges du diable, car elle est environnée des anges de lumière qui veillent, qui sont des vaillants guerriers dans le combat évidemment contre les puissances des ténèbres. Selon Apocalypse chapitre 12, verset 7 et le verset 11. Ces puissances sont vraiment des esprits mauvais qui attaquent toujours dans les ténèbres et à l'improviste, quand l'âme se trouve dans la nuit de l'épreuve. Il faut bien comprendre cela et cela mérite de s'arrêter un instant pour méditer, car ces puissances sont vraiment des esprits mauvais, j'en sais quelque chose, qui attaquent toujours dans les ténèbres, et quand vous êtes chancelant, abattu, et souvent à l'improviste, quand l'âme se trouve dans la nuit de l'épreuve. L'âme que Dieu possède maintenant, eh bien, nous pouvons voir dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 9 et 10, quelque chose de merveilleux. Le roi Salomon s'est fait un char de gala en bois du Liban. Il en a fait les piliers d'argent, la base d'or, le siège d'écarlate, l'intérieur a été revêtu d'amour par les filles de Jérusalem. Souvent, voyez-vous, cette description est attribuée à Salomon lui-même. Cependant, les mots « Salomon s'est fait » suggèrent plutôt que l'âme, qui est devenue une habitation de Dieu par l'Esprit Saint, en est l'auteur. Dans les versets 9 et 10, Jésus-Christ est dépeint comme demeurant dans les croyants, lesquels sont en même temps, sont en quelque sorte son char et son corps. Donc, on peut dire que les filles de Jérusalem ont vu, elles ont vu la gloire d'en haut reposer sur l'âme qui est maintenant assise avec le Seigneur dans les lieux célestes. Et c'est là l'œuvre du Seigneur seul. Et maintenant, après avoir décrit la litière de Salomon, elle décrive le char d'État qu'il a fait pour son usage particulier. C'est une image de l'âme que le bien-aimé a transformée pour y demeurer. Le bois du Liban, c'est le symbole de son humanité. C'est la demeure terrestre. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Les piliers d'argent sont le symbole de sa rédemption rachetée par le précieux sang versé au calvaire. L'or, c'est la vie divine, c'est la vie du Seigneur demeurant en elle. C'est le siège recouvert de pourpre et qui est le trône royal. Le roi se réjouit, il se réjouit de rendre glorieux son marchepied et son temple est comme pavé avec l'amour des filles de Jérusalem. Le Christ est maintenant couronné. Il est dit dans le Cantique des Cantiques au chapitre 3, verset 11, « Sortez, filles de Sion, et regardez le roi Salomon couronné au jour de son mariage et au jour de la joie de son cœur. » Donc les filles de Sion sont convivées à contempler le vainqueur du calvaire, le vainqueur du calvaire dont la tête royale vient de recevoir une nouvelle couronne, celle qu'il a rachetée. Elle est comme une couronne d'ornement dans la main de l'Éternel. C'est en quelque sorte un diadème royal. Ésaïe, chapitre 62, verset 3. C'est peut-être au sujet des filles de Sion, dont il est ici question, qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, « Vous êtes venus à la montagne de Sion, c'est-à-dire à la cité du Dieu vivant, âme déjà unie au Seigneur glorifié. » Âmes maintenant victorieuses, sur lesquelles est gravé le nom de la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 3, verset 12. Membres de l'épouse. elles se réjouissent de voir l'esprit de l'épouse en de nouvelles âmes, et maintenant leur joie du bonheur de l'époux. Je répète, elles sont maintenant membres de l'épouse et elles se réjouissent de voir l'esprit de l'épouse en de nouvelles âmes. Et elles manifestent de leur joie du bonheur de l'époux. C'est merveilleux. Et c'est quand même quelque chose qui vaudrait à l'occasion, je vous l'ai dit vraiment avec conviction, de réécouter pour mieux en saisir les subtilités, car il y en a. Nous allons maintenant terminer cette courte étude par la prière. Prions. Père céleste, permets-nous de t'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme, de toute notre force et pensée, et nos voisins comme nous-mêmes. Aide-nous à être charitables et aimables de tout cœur pour tous nos semblables. Fais de nous des chrétiens aimables dans nos conversations et généreux dans nos actes. Enseigne-nous qu'il y a plus de bénédictions de donner que de recevoir. Délivre-nous de toute pensée et comportement méchant. Fais de nous des chrétiens utiles dans ce monde et que nous puissions de plus en plus oublier nos propres privilèges et servir les autres et faire les œuvres de notre Seigneur qui nous a envoyés pour les exécuter par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père de grâce et d'amour. Nous te demandons de purifier notre âme et esprit de tout ce qui pourrait nous séparer de toi. Laisse-nous sentir le renouvellement de ta puissance s'écouler en nous afin de nous fortifier en puissance et en même temps en compassion. Nous te prions de nous aider à consacrer nos talents et notre temps ainsi que nos pensées à ton saint service. Fortifie-nous de corps et d'esprit, afin que nous puissions devenir des guides vivants de ta vérité et de ton amour. Aide-nous, Seigneur, de réaliser que tu es présent avec nous tout le temps et partout, afin que nous puissions nous appuyer sur toi avec tous ceux qui nous sont chers, en Jésus-Christ, notre unique Sauveur. Amen. Et chers amis, rappelez-vous que le Seigneur vous aime. Du moment que vous lui appartenez, il ne vous lâchera plus. Ayez confiance. Et surtout, surtout, rappelez-vous de garder votre âme pure, de pouvoir garder votre âme en dehors de tout ce qui nous assaille, de tout l'environnement dans lequel nous vivons, qui est compliqué et qui est plein de tentations énormes. Demandez à l'Esprit Saint de vous protéger et de garder votre âme pure pour nous retrouver un jour ensemble devant le Seigneur. Au revoir, à demain matin pour la suite de cette série.